I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio, c'était donc toi depuis tout ce temps.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a des histoires qu'on voit passer dans les journaux, ou plutôt sur les sites d'infos, dont on se dit qu'elles vont faire grand bruit et qui finalement disparaissent, avalées par la marée quotidienne de nouvelles dans laquelle nous baignons toutes et tous. Allez savoir pourquoi. Ainsi, lorsque le 12 novembre dernier, Mediapart pointait du doigt les accointances étranges entre le grand banditisme corse et l'ancien patron de la sécurité du président de la République, le général de gendarmerie Lionel Lavergne, j'avoue avoir cru que l'affaire en deviendrait une, avec des explications, une mise à plat, pourquoi pas des liens plus que troubles qu'entretiennent certains hauts responsables de la police et de la justice, avec des mafieux qu'ils sont supposés vouloir coffrer à tout prix. Mais non, rien de tout ça, l'histoire est repartie comme elle était venue et le sujet refermé jusqu'à la prochaine fois. Car des scandales de ce genre, il y en a régulièrement. Tout notre questionnement, pourquoi ces liens connus, avérés, entre le milieu corse et certains flics de haut vol perdurent-ils? Et pourquoi existent-ils d'ailleurs ces liens? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité nous a déjà fait bénéficier de ses lumières, c'est ma consoeur Violette Lazare de l'Obs, fine connaisseuse du banditisme corse auquel elle a consacré avec Marion Galland un livre, Vendetta, les héritiers de la brise de mer, du nom de ce gang célèbre du milieu corse, c'est paru chez Plomb. Je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les truands semblaient si intéressés par le fait de développer et d'entretenir des liens de proximité avec celles et ceux qui sont censés les traquer, à savoir les policiers et les magistrats.
Je pense que ça dépend des cas de figure. Je pense qu'il y a des cas de figure où l'intérêt est d'avoir des informations, évidemment. Enfin, ça, c'est vraiment le premier point. Avoir des informations très concrètes, comme on l'a vu récemment, hein, sur des interpellations qui vont avoir lieu, des perquisitions. Voilà, donc là, on est au stade vraiment zéro de l'enquête. Ça permet tout simplement, quand on a l'information avant, là, on l'a vu au mois de septembre, le coup de filet qui avait été lancé contre la bande dite du Petit Bar à Ajaccio, sur les quatre qui constituent le noyau dur de la bande, hein, il y en a trois qui sont partis deux jours avant, parce qu'ils ont été prévenus, il y a eu une fuite policière ou une fuite judiciaire, en tout cas, il y a eu une fuite, c'est sûr, et ils sont partis. Donc là, l'intérêt, il est assez concret, évident, et on le voit bien. Là où on a plus de mal à comprendre l'intérêt direct, c'est quand c'est des relations en très haut lieu, on va dire. Par exemple, alors Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron de la DGSI, avant de devenir patron de la DGSI, il a été adjoint des RG, qui ont disparu par la suite, et il s'occupait de la Corse. Et par la suite, on voit qu'il n'a jamais, jamais coupé le lien. Il a toujours continué à voir les gens qui traitaient, entre guillemets, quand il s'occupait de la Corse. Il restait en contact avec eux. Et il restait également en contact avec un homme qui est quand même éminemment sulfureux pour ses différentes activités, à la fois dans les casinos, les cercles politiques, etc., qui est Michel Thomy. Là, on peut se demander qui a le plus d'intérêt, des deux, qui a le plus l'intérêt de maintenir cette relation. On voit, grâce à plusieurs enquêtes judiciaires, que ces liens ils sont assez réguliers. C'est-à-dire que quand Michel Thomy vient à Paris, et que Bernard Squarcini est à ce moment-là patron de la DGSI, hein, il est le numéro un du renseignement intérieur français, ils se rencontrent. Ils vont déjeuner ensemble, ils vont boire un café, ou alors Bernard Squarcini, pour être discret, s'arrête en voiture devant le restaurant où il est, il y en a un qui monte dans la voiture de l'autre, etc. Bon, ils se parlent, quoi. On ne sait pas tout ce qu'ils se disent, évidemment, mais ils se parlent de façon assez régulière. Bernard Squarcini l'appelle Tonton. Tout le monde appelle Michel Thomy Tonton, même Bernard Squarcini. Donc ça donne aussi un... voilà, ça donne un peu la nature du lien qu'il peut y avoir entre ces deux hommes, quoi. Parce que dans Tonton, c'est pas anodin, encore, s'il y a une marque de respect, il y a une marque de déférence, en fait, par rapport à lui. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi ils sont en lien? Alors, il n'y a pas de lien direct qui ont été mis à jour, mais dans l'entourage de Michel Tomy, les protégés de Michel Tomy, il y en a eu pas mal qui ont été avertis, soit de leur interpellation quelques jours avant, soit pour le plus fameux d'entre eux, Germany, quand il était en cavale et qu'il était poursuivi, à chaque fois que les flics débarquaient pour l'arrêter, il n'était plus là. Voilà. Donc, est-ce qu'il a obtenu des informations via cette relation avec Bernard Scarsini? Ça n'a pas été prouvé, mais évidemment, on peut que se poser la question.
Petite parenthèse pour préciser qui est Jean-Luc Germany, dont il est question ici. C'est un des acteurs essentiels des dossiers corses de ces dernières années. Un proche du gang de la Brise de Mer, suspecté d'être à l'origine de nombreux assassinats, et resté en cavale pendant un bon moment jusqu'à son arrestation en 2014. Voilà, fin de la parenthèse. Retour à notre sujet d'origine, les liens entre le très puissant homme d'affaires corse Michel Tomy, surnommé le parrain des parrains, ce qui veut tout dire, et l'ex-patron du renseignement français sous Sarkozy, Bernard Squarcini.
L'autre chose, c'est que ça, on le voit dans une autre affaire aussi, Michel Tomy a la particularité d'avoir un frère qui travaille dans les renseignements, qui est commissaire, qui a passé le concours de commissaire, c'est un commissaire, et qui a travaillé par la suite dans le renseignement intérieur français, et qui, visiblement, on lui a mis quelques bâtons dans les roues en raison de son nom, quoi, tout simplement. Et à un moment, il veut être muté dans le sud de la France, je crois que c'est Montpellier, parce qu'on lui a refusé Nice, parce qu'il était trop près des affaires de son frère, etc. Et que fait Michel Tomy à ce moment-là? Il appelle Bernard Squarcini en lui disant « Écoute, est-ce que tu peux pas me filer un coup de main ?» Ça a été enregistré dans des procédures judiciaires, est-ce que tu peux pas me filer un coup de main pour que mon frère soit nommé à Montpellier? À ce moment-là, Bernard Squarcini n'est plus DGSI, je crois. Il n'est plus à la tête des renseignements. Mais bon, il continue à avoir exactement les mêmes rapports. Et là, il appelle le directeur général de la police, Frédéric Vaux, pour lui demander qu'est-ce que tu peux faire pour le frère de Tomy, etc. Bon, il se fait rembarrer totalement, donc il n'y arrive pas. Mais on voit bien que ça s'agite, que ça manigance. En fait, on essaye de se donner des coups de main. Donc, Bernard Squarcini donne un coup de main à Michel Tomy pour que son frère soit nommé à l'endroit où il veut. Évidemment que ça ne va pas que dans un sens, qu'il y a des renvois d'ascenseur sans cesse.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça peut perdurer ces liens-là, alors qu'il y a tout un faisceau de présomptions qui font que, finalement, c'est assez connu. Ces liens-là, en tout cas, ça va jusqu'à sortir dans la presse. Ces écoutes dont on parlait, elles ont été publiées par Mediapart. Enfin, il y a tout un ensemble de preuves, même matérielles, qui font que tous ces liens sont connus. Et pourtant, ces liens, ils perdurent, ils se multiplient, ils existent à d'autres échelons encore. Je ne sais pas comment ça se maintient, tout ça.
En termes de procédure pénale, c'est des faits qui sont très difficiles à caractériser et qui sont très difficiles à poursuivre. Alors, ça peut s'apparenter à du trafic d'influence, ça pourrait s'apparenter, mais il faudrait savoir ce qu'il y a en échange à de la corruption. Mais pour qu'il y ait de la corruption, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné en échange. De l'argent, un poste prestigieux. Mais il faut que le problème aussi dans ce genre de comportement, c'est que on peut rendre un service une fois il y a 10 ans, ne rien en attendre immédiatement, et puis 10 ans après, quand on en a besoin, rappeler et dire au fait, je t'ai rendu service. Donc en fait, ça, pénalement, c'est pas répréhensible. Ils se font très très rarement condamner pour ce genre de ce qui s'apparente à des échanges de bons procédés, en fait. Par ailleurs, je pense que c'est pas un cliché de dire que la société corse est basée sur un modèle familial très, comment pourrait-on dire, méditerranéen. C'est-à-dire que je vais aider avant tout celui qui est de ma famille, avant celui qui est d'une autre famille. Je vais aider celui qui est de mon village avant d'aider celui qui est... Bon, bref, blablabla. Et si on continue comme ça, je vais aider mon ami qui est corse avant d'aider quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et c'est ce genre de comportement qu'on voit à plusieurs reprises dans des scénarios de fuite qui peuvent venir de personnes qui sont soit dans la magistrature, soit qui sont dans la direction des affaires policières, judiciaires, etc. et qui sont corses. Et qui, en fait, malgré eux, se font approcher par des gens qui sont dans un autre monde, hein, qui font partie de la voyoucratie, mais qui leur rappellent un petit peu leurs racines et qui leur demandent des coups de main. Ça arrive très souvent et c'est pas négligeable. Et après, ça, c'est le dernier exemple en date sur l'Avergne. Là, on voit que c'est des réseaux francs-maçons. Mais là aussi, cette affaire, elle est intéressante et à la fois, elle est très compliquée parce qu'il n'y a rien de répréhensible pénalement dans ce qui s'est passé. Et puis, on ne sait pas. Je veux dire, ok, donc ce gendarme, Lavergne, est franc-maçon. Visiblement, ça ne fait aucun doute. Il est dans la même loge qu'un certain Luciani, qui est un proche de Germani, à ce moment-là, qui est en cavale. Ensuite, on entend sur des écoutes Luciani dire « notre ami gendarme, blablabla ». Mais à quel moment c'est de la vantardise? À quel moment c'est « je connais machin qui est très haut placé et qui va pouvoir peut-être nous aider ou peut-être pas ?» Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a aussi parfois, je pense, beaucoup de grandes bouches. On parle, on se hausse du col auprès de ses potes, puis au final, on ne fait rien. Enfin, je veux dire, ça ne donne absolument aucun résultat. Bon, la preuve, Germani se fait arrêter quelques mois après. Enfin, le fait qu'il y ait la BRI à ses trousses, ça n'a pas fuité à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a une forme de fantasme aussi, peut-être, du côté à la fois de la presse et peut-être des observateurs extérieurs, des gens qui connaissent un peu moins bien les dossiers corses, sur ce côté tentaculaire qu'on associe à l'image de la mafia qui pénètre un peu toutes les strates du pouvoir? Est-ce qu'on entretient aussi avec ces histoires-là un peu ce fantasme-là?
Je vais faire une réponse un peu personnelle, hein, mais moi, au début, quand j'ai commencé à bosser sur ces histoires-là, je me disais, à chaque fois que je parlais d'un dossier, on me disait « oui, mais vous comprenez, machin, il connaît un tel, et les fuites, elles viennent de là, et vous voyez pas la coïncidence entre le moment où il aurait dû être arrêté, où il est parti en cavale. » J'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces bandes de parano, de fous qui voient des espèces d'explications partout. Enfin, limite, c'était du complotisme pour moi. Et après, j'ai mis le nez dans les affaires et j'ai commencé à vraiment travailler dessus. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. On est vraiment, vraiment dans un panier de crabes. J'ai jamais vu ça dans aucun dossier sur lesquels j'ai travaillé avant. Et il y a vraiment des liens qui sont inexplicables, parfois des décisions judiciaires qui paraissent inexplicables, des enquêtes policières qui s'arrêtent comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison qui s'arrête, des procès qui ne sont jamais audiencés. Il y a un jeu trouble des autorités dans les affaires corses, c'est évident. Et je ne fais pas partie des parano et des complotistes, je suis vraiment la dernière à accréditer ce genre de thèse. Hein. Voilà. Donc oui, il y a des relais au plus haut niveau de l'État, il y a des relais au plus haut niveau de la hiérarchie policière, c'est évident. Je veux dire, moi, dans aucune autre affaire, j'ai des flics qui m'ont dit, quand on poursuivait un tel, on mettait rien en commun, les PV, on les tapait, mais on les partageait pas avec les autres services, et la veille de l'opération, quand on allait taper le mec, on prévenait personne. On prévenait pas de notre hiérarchie pour être sûr que ça fuite pas, et on leur disait une fois qu'on l'avait arrêté. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part.
Est-ce qu'il y a, à l'inverse, on évoquait l'intérêt que peuvent avoir les truands à noyauter un peu les services, et notamment les plus hauts niveaux de la police et du renseignement? Est-ce qu'il y a, à l'inverse, un intérêt pour ces grands acteurs du renseignement à avoir les oreilles très branchées sur les réseaux corses pour être au courant, à l'avance, pour anticiper certaines choses, pour se renseigner, se rencarder? Est-ce que ça a aussi un intérêt stratégique pour eux?
Ouais, c'est souvent leur argument, parce que bon, parfois ils se font choper. Leur argument, c'est de dire, nous, on fait de la police judiciaire, si on parle pas aux truands, aux voyous, enfin, je veux dire, nos indiques, c'est évidemment pas des enfants de cœur, donc si on n'a pas ces mecs-là avec nous, et si on leur parle pas, et si on laisse pas passer certaines choses, certes, en échange d'informations, on n'a rien. Le problème, c'est que dans plusieurs affaires, ce qu'on a vu, c'est que c'est eux qui se font manipuler plus que l'inverse. Donc, ils y gagnent des informations, certes, mais c'est souvent des informations qui sont au détriment du camp d'en face. Donc, évidemment, hein, c'est toujours comme ça. Mais là, dans ces cas-là, ça fait qu'exacerber les guerres entre deux clans. Donc, en fait, ils deviennent des acteurs des guerres au sein du grand banditisme, en protégeant certaines personnes et pas d'autres. Et au final, est-ce que les informations qu'ils ont leur permettent vraiment de... Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est quand même que la situation soit assainie. Moi, j'ai pas du tout l'impression.
Est-ce qu'il y a un problème de verrou éthique au sein des services, d'autocontrôle, d'autogestion de ces problématiques sur lesquelles ils sont pas assez sensibilisés, auxquelles ils font pas assez attention, d'après toi?
Bah, il y a une charte de gestion des informateurs. Dans les affaires corses, j'ai pas trop l'impression qu'elle soit respectée. Non, t'as quand même un peu... Parfois, là, alors peut-être plus il y a 15-20 ans, là, parce que quand j'ai bossé sur ça pour le bouquin, je suis remontée un peu dans les archives et tout ça, mais disons qu'il y a 15-20 ans, t'as un peu l'impression d'être au Far West, quoi. Avec les mecs qui se conduisent... Enfin, beaucoup de policiers, hein, qui se conduisent comme des cow-boys, qui utilisent leurs indiques, qui les rencontrent au milieu du maquis. Derrière le mec, son contrôle fiscal, c'est terminé, on n'en entend plus parler, alors qu'on sait très bien qu'il est au cœur de... je ne sais pas combien d'assassinats. Alors aujourd'hui, est-ce que les chartes sont plus respectées? La dernière affaire en date, là, c'est quand même en fin septembre, début octobre, dans le cadre donc de l'affaire du petit bar. Ils arrêtent un mec qui connaissent très bien, hein, qui a été proche de la Brise de Mer, qui a été proche de Ferrara, qui a été condamné plusieurs fois. Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu corse et même dans le milieu du braquage en Île-de-France, etc. Enfin, même au niveau national, je veux dire. Ils l'arrêtent et on s'aperçoit qu'ils le mettent en garde à vue et puis qu'ils passent un espèce de deal un petit peu étrange avec lui. On ne connaît pas les détails, mais en gros, soit tu nous donnes des infos sur les fuites qui viennent de chez nous. En fait, les flics veulent savoir d'où viennent les fuites. Puis en échange, on va être plutôt sympa avec toi, sachant qu'il devrait plus ou moins avoir un rôle secondaire dans l'affaire. C'est une tentative d'assassinat. Il est plus question de logistique que de passage à l'acte. Visiblement, cet homme, José Menconi, donne des informations. Est-ce qu'elles sont vraies, pas vraies? Est-ce qu'il roule les policiers dans l'affaire? Non, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, il donne des informations. Et en échange, un des policiers lui prête son téléphone portable pour qu'il puisse appeler sa femme, qui se trouve à son domicile, et lui dit « tu fais le ménage ». Donc, elle, immédiatement, elle appelle des gens qui viennent faire le ménage chez elle. Le ménage, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait des armes? On ne sait pas, parce qu'on ne les a pas retrouvées. Mais en tout cas, il y a un gilet pare-balles, c'est sûr. Il y a une voiture qui est dissimulée. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la voiture. Et à ce moment-là, il est relâché. Donc, ils se font choper. Ils n'auraient pas dû se faire choper. Ils se font choper parce qu'il se trouve que la femme de Menconi est sur écoute dans une autre affaire. Donc, il y a des flics qui entendent ce deal. Voilà. Mais ils auraient jamais dû se faire choper normalement. Là, ils se font choper, donc ils vont être envoyés vers d'autres services, hein. Il y aura des sanctions. Mais ça veut dire que ce qu'on appelle un peu vulgairement la police à la papa, je te deal un truc, tu me donnes des infos, puis en échange, bon bah, ton implication dans la tentative d'assassinat, on va un peu l'oublier. Ça existe toujours. Voilà. Et ça, c'est illégal, en fait.
Alors d'aucuns nous diront que nous sommes bien naïfs d'imaginer qu'il puisse en être autrement. On pourra toujours objecter que si on n'essaye pas de faire différemment et qu'on se contente de répéter les mêmes vieilles recettes, c'est sûr qu'on n'avancera pas beaucoup. Merci à Violette Lazare pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.